Zambi la sta Milana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Nous sommes dimanche 26 février 2023. C'est le rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongeli. Ouvrons cette page rétrospective de l'actualité sur le retour du président de la République, Evariste Ndayishimiye, du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. La crise en République démocratique du Congo était au centre des débats. Le numéro 1, Burundi, qui est aussi le président en exercice de la communauté est-africaine, a indiqué que la réunion a permis de comprendre pourquoi le processus de paix n'avance pas. Ses homologues lui ont confié la tâche de réunir au plus vite à Bujumbura toutes les nombreuses commissions créées pour soutenir le processus. On l'écoute.
Cette réunion s'est bien passée parce qu'on a fait un pas important. On s'est focalisé sur le vrai problème. Pourquoi nous prenons toujours des décisions qui ne sont jamais mises en œuvre et qu'il n'y a pas d'avancée? Nous nous sommes alors entendus sur une chose, parce qu'auparavant certains disaient que c'est un problème entre deux pays, mais les chefs d'État de l'EAC nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que la crise qui prévaut à l'est de la RDC ne concerne que deux pays, alors que nous avions déjà convenu que c'est un problème régional, parce que nous nous constituons une même communauté. Dans ce cas, nous devons y faire face comme un problème régional. Nous avons constaté que, souvent, nous prenons des décisions, puis nous nous séparons et il n'y a personne pour assurer le suivi pour leur mise en œuvre. Nous sommes rendus compte qu'il y a trop de commissions qui sont chargées de suivre nos décisions, mais chacune travaillait indépendamment des autres, ce qui arrangeait alors les protagonistes du conflit parce qu'ils ne rendaient compte à personne. Maintenant, nous avons décidé de mettre ensemble toutes ces commissions chargées de suivre le processus de cesser le feu en RDC, ce qui nous permettra désormais de demander aux concernés pourquoi ils ne s'exécutent pas et ainsi trouver rapidement une solution sans devoir réunir encore les chefs d'État. C'est pour cela qu'ils m'ont confié de convoquer toutes ces commissions, c'est-à-dire celle chargée de suivre les décisions prises à Angola, celle chargée de veiller à l'exécution d'anciennes décisions, une commission de la MONUSCO, la force régionale déployée là-bas, il y a aussi les autorités congolaises, le M23. Vous comprenez que c'était un véritable méli-mélo. Maintenant, on m'a donné les pouvoirs de les inviter ici à Bujumbura pour qu'ils ne constituent tous qu'une seule équipe qui va se fixer les actions à mener. Ainsi, je vais les inviter dans les plus brefs délais et nous espérons que les choses vont enfin se décanter. Parce que nous nous sommes dit que c'était cela l'obstacle.
Poursuivons cette rétrospective de l'actualité par la fouille et perquisition qui a été organisée par la police dans la matinée de mercredi dernier en zone Jabès dans la commune Mukaza, mairie de Bujumbura. La police exigeait la présentation du cahier des ménages. Ce qui a beaucoup étonné les habitants de Jabé, il exigeait également la présentation d'un reçu de paiement du service en charge d'évacuation des immondices, alors que la mairie de Bujumbura avait dit qu'il y a un service chargé de le faire. Les détails avec Signorine Nijimber.
Cette fouille et perquisition a commencé aux environs de 5h30 du matin, quand les habitants de Jabé ont été réveillés par les bruits des policiers qui toquaient à leur porte. Ils exigeaient la présentation du cahier de ménage. Celui qui était en possession de ce cahier, on lui demandait le reçu du paiement des frais pour le transport des immondices. Celui qui ne l'avait pas devrait payer soit 2 000 ou 5 000 pour qu'il ne soit pas embarqué. Les habitants de Jabé s'inscrivent en faux contre ce comportement qu'affichaient ces policiers. Ils demandent à la police de faire des fouilles et perquisitions conformément à la loi.
Cette exigence de présenter le reçu de paiement des immondices est contraire à la loi parce que le policier en principe est chargé de la sécurité. Quand il vient fouiller, c'est pour voir s'il n'y a pas d'armes cachées ou alors un inconnu qui serait caché dans un ménage. Vous trouverez alors que cette opération s'est déroulée en violation de la loi car la question de l'hygiène ne concernait pas le policier qui est en principe chargé de la sécurité. La question d'hygiène est du ressort de la protection civile. En plus, la mairie a le service d'hygiène. On ne comprend pas pourquoi ils exigent ce reçu. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? De l'argent? Si tu leur donnes 2 000, 5 000 ou 10 000, ils te laissent Si tu ne leur donnes rien, tu étais vite embarqué et c'était sous la pluie.
Son comportement qu'a affiché ces policiers viole la loi. Très récemment, le maire de la ville de Bujumbura a été plus clair. Il y a un service habilité pour suivre le paiement des factures pour l'évacuation des immondices dans les ménages. La police municipale a le rôle essentiel d'assurer la sécurité.
Il y a un organe chargé de la salubrité, n'est-ce pas? C'est avec cet organe chargé de la salubrité que nous analysons ensemble comment le rendre opérationnel. C'est pour que le commissionnaire municipal et les policiers de son ressort s'occupent du domaine essentiellement sécuritaire, sinon ça devient autre chose. On s'entend bien, j'espère.
Vous saurez que dans cette fouille et perquisition, trois camions chargés ont amené ceux qui ont été arrêtés à la police de Buyenzi, communément appelé Besser. D'autres, sous la pluie, sont partis à pied sous escorte de la police.
Au chapitre de la justice, le collectif des avocats pour la défense des victimes et des droits internationaux commis au Burundi, Kaviba, a condamné au courant de cette semaine écoulée l'arrestation et la détention de 5 défenseurs des droits humains en prison depuis une semaine. Dans une déclaration qu'il a sortie ce jeudi, le Kaviba a précisé que cette arrestation traduit encore une fois une haine viscérale que certains membres du gouvernement ont contre une certaine catégorie de la population burundaise. Maître Yves Runyagou, chargé des relations publiques et du plaidoyer au sein du CAVIB, dit que cette arrestation montre à suffisance cette fois qu'aucun Burundais ne peut se sentir à l'abri et demande la libération sans condition de ces 5 défenseurs des droits humains. Suivez-le.
L'arrestation en question démontre clairement que le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye ne veut pas rectifier le tir et veut plutôt continuer dans la même voie que son prédécesseur, en dépit de toutes les déclarations de bonnes intentions qui sont entendues ici et là. L'arrestation montre encore une fois que le pouvoir exécutif burundais veut toujours s'ingérer dans le fonctionnement de la justice par des condamnations orchestrées à l'avance, avant tout procès. L'arrestation montre encore qu'aucun Burundais ne peut s'asseoir et se sentir à l'abri puisque le Service national des renseignements demeure tout puissant et il peut arrêter, détenir et même faire disparaître qui il veut et cela avec la bénédiction du gouvernement. L'arrestation prouve encore une fois qu'aussi longtemps que l'impunité qui règne dans les organes de sécurité et de justice au Burundi n'aura pas été éradiquée, les arrestations et détentions arbitraires ne cesseront jamais. L'arrestation dont il est question traduit encore une fois une haine viscérale que nourrissent certains membres du gouvernement et certains membres des organes administratifs du Burundi à l'endroit de certaines catégories de population. Pour toutes ces raisons, le CAVIB demande au gouvernement de libérer ces défenseurs des droits humains qui ont été injustement et irrégulièrement arrêtés pour qu'ils puissent regagner leur famille. Nous demandons aussi au gouvernement de s'impliquer davantage pour mettre fin à la persécution des gens et se concentrer plutôt à des questions plus sensibles et qui sont importantes pour la population. À la communauté internationale, le CAVIB demande de contribuer pour la libération des défenseurs des droits humains qui ont été arrêtés. Il est demandé à cette même communauté internationale de constater avec le peuple burundais que la prétendue amélioration de la situation des droits de l'homme, qui est souvent évoquée par le gouvernement burundais, n'est qu'un trompe-l'œil.
Pendant ce temps, le rapport sur les droits de l'homme de l'année 2022 présenté durant cette semaine qui s'achève au Parlement par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, a noté des mauvaises conditions de détention des prisonniers au Burundi. Le rapport a montré également que sur 400 plaintes qui ont été déposées à la Commission, plus d'une centaine portaient sur les libertés publiques et politiques. Le point avec Eddie Claude Nininahazo.
Dans son rapport, la CNDH déplore les conditions de détention dans les différents cachots des zones et communes du pays. Les détenus dépassent la capacité d'accueil, les pièces sont très petites et les lieux d'aisance se trouvent un peu éloignés. Les détenus, des fois, passent toute la journée sans sortir à l'extérieur pour prendre de l'air. Ce surnombre dans ces maisons de détention est des fois lié au manque de moyens de transport pour transférer les prisonniers dans les commissariats provinciaux de la police. Le rapport de la CNDH regrette qu'il y a des postes de la police qui n'ont pas des conditions minimales pour garder les délinquants dans les cachots. Dans plusieurs maisons de détention, les adultes ne sont pas séparés des mineurs. En plus, ces mineurs-là, des fois, ne sont pas assistés. Le rapport note également que 3 femmes qui allaitaient ont été trouvées dans les cachots, ainsi que 6 personnes qui souffraient des maladies mentales. Tout cela est contraire à la loi selon cette Commission nationale des droits de l'homme. La CNIDH a également constaté qu'il y a des gens qui sont détenus dans les cachots et qui ont été arrêtés par des responsables administratifs et qui n'en ont pas les compétences. Les administrateurs communaux viennent en tête. Sur les violations d'ordre politique, le député Agathon Rwasa, qui est président du parti CNL, lors des questions d'éclaircissement sur ce rapport, a cherché à savoir ce qu'il faut faire pour garantir les libertés politiques. C'est au moment où son parti vient d'être refusé d'organiser son 4e anniversaire.
La question qui a été soulevée en rapport avec la liberté politique et des partis politiques, permettez-moi aussi d'y revenir, parce que nous avons été malmenés à plusieurs reprises dans nos travaux du parti. Un peu partout, on nous a refusé l'ouverture de nos permanences. Certaines ont été démolies. Si vous dites que ça s'est bien passé, il y a lieu de se poser la question de savoir ce qu'il adviendra pour cette année. C'est au moment où c'est le ministre qui a été le premier à nous refuser l'autorisation de notre anniversaire avant-hier. Tout ce qu'on nous a demandé, on va le faire demain, si tu veux. Alors ma question est de savoir ce qu'il faudra faire pour que les libertés des partis politiques ou alors des libertés politiques soient respectées dans notre pays.
Le président de la CNIDH dit qu'il n'était pas au courant parce que la commission n'a pas été saisie pour se pencher sur cette question.
Il a dit qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien déroulées en matière politique. Nous, en produisant nos rapports, nous nous référons sur ceux qui nous ont soumis leurs doléances. Je pense que nous sommes tout le temps en pourparlers avec différentes institutions. Nous parlons régulièrement avec les responsables des partis politiques. Je ne sais pas si, parmi vous, il y aurait quelqu'un qui aurait saisi la commission pour lui dire qu'on lui a refusé la tenue d'une réunion et qu'on ne lui a pas porté secours. Mais comme il y a une anguille sous roche, nous sommes ici pour s'entraider. Je pense que nous avons entendu ce conseil. Il serait aussi louable que s'il y a un problème qui se pose, une solution soit vite trouvée. Rappelons tout de même que nous avons salué la décision du ministre de l'Intérieur qui instruit à tous les organes de l'État de laisser les partis politiques et organisations qui le souhaitent tenir leur réunion en toute tranquillité. C'est ça le combat de notre commission.
Le constat de la commission est qu'il n'y a pas également de séparation entre les prisonniers qui sont en détention préventive et ceux qui ont été condamnés au niveau des prisons. L'autre constat amer est qu'il y a des prisonniers qui sont toujours gardés en prison alors qu'ils ont purgé leur peine ou alors acquittés.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine, revenons sur ce message du président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Ndabirabe, adressé à la population de sa commune natale, Matongo, le samedi de l'autre semaine. Il a affirmé que la valeur de la monnaie burundaise n'est pas aussi basse que l'estiment certains étrangers. La valeur réelle est bien importante au Burundi, selon le président de la Chambre basse du Parlement. Selon lui, la population parvient à consommer ce qu'elle a produit, y compris la viande, sans faire recours au dollar américain. On l'écoute.
Il y a des étrangers qui achètent du carburant, de la nourriture et d'autres choses ici dans notre pays. Ceci montre que notre monnaie burundaise a de la valeur. Ceux qui disent que notre monnaie est dévaluée par rapport aux autres pays de la sous-région, c'est impossible. C'est ce que disent les Blancs dans le but de continuer à nous assujettir pour que nous propicions dans la misère. Est-ce que tu as déjà vu le dollar américain? Est-ce que tu ne manges pas de la viande? En plus, seul du lapin, sans avoir touché de leur dollar. Est-ce qu'on a besoin du G? Et alors, quel est le rapport avec le franc burundais? La valeur de la monnaie burundaise est liée à notre production agricole. Les Blancs comparent la valeur monétaire du dollar à la nôtre. Est-ce que tu as déjà
mis les pieds dans leur pays.
Réagissant à ces propos, Frédéric Mvuginyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi, estime que les dirigeants burundais devraient apprendre à dire la vérité devant la population et expliquer correctement l'origine de la dépréciation de la monnaie burundaise. Il aurait fallu que le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelas Ndabilabe, explique à la population cette dévaluation par la comparaison de la montée des prix des produits alimentaires. On l'écoute.
Visiblement, quel était son objectif? C'était pour peut-être étouffer les bruits selon lesquels la monnaie burundaise se déprécie au jour le jour. Et il voudrait expliquer à la population présente que ce n'était pas vrai. S'il voulait expliquer la dévaluation de la monnaie, il y avait des termes très simples pour le dire. Il suffisait de comparer le pouvoir d'achat d'il y a 10, 20 ans et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, pour que les gens comprennent qu'il y a une différence. Y aller au marché il y a 3 ans, on pouvait acheter peut-être à quel montant un coq ou un panier de patates douces ou un panier de pommes de terre. Et aujourd'hui, avec 10 000 francs, on peut avoir peut-être l'okaa, peut-être du panier, ou peut-être 4 fois plus qu'on donnait avec le coq. Donc ça vous démontre qu'il y a la dévaluation de la monnaie. Il y a 3-4 ans, avec 100 000 francs, un fonctionnaire moyen de l'État pouvait parvenir à faire vivre sa famille. Mais aujourd'hui, qu'avec la même somme, on ne peut plus le faire. Donc ça signifie que la monnaie burundaise a perdu sa valeur. Ça, c'est un fait. Mais il ne fallait pas expliquer pour lui comme cela, parce que la population allait comprendre le problème qui s'oppose. Et la question logique qui conséquente, c'était de dire pourquoi ça. Et au lieu de dire que c'est le pouvoir qui est à l'origine de la perdition, de la dépréciation de la monnaie burundaise, il ne pouvait pas accepter cela, il devait cacher la vérité. Cependant, je répète à l'endroit de ceux qui m'écoutent, la valeur de la monnaie a dépendu de la façon dont le CNDD-FDD dirige le pays. Parce que la population, elle est là. Les richesses qu'on peut fructifier sont là. Maintenant, ce qui manque, c'est le programme pour faire fructifier les richesses que nous avons dans le pays et augmenter justement la valeur de la monnaie
et entrer dans le développement. Mais ils ne veulent pas démontrer ça parce que justement, ils doivent cacher la vérité à ces populations qui les ont élus malheureusement.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un excellent week-end. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.